Bruno Gollnisch, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir.
Merci de votre invitation.
Bonsoir, monsieur le député.
Alors,
bonsoir.
Nous avons une petite remarque de Philippe avant d'attaquer notre sujet.
Oui, Laurent, nous avons reçu un grand nombre d'observations et en tout cas de remarques d'auditeurs et de questions sur Noël. Nous n'avons pas pu toutes les passer. Nous nous en excusons pour laisser la parole à monsieur Bruno Gollnisch.
Alors, monsieur Bruno Gollnisch, c'est un honneur de vous recevoir ce soir. Nous supposons que vous devez être extrêmement sollicité. Alors, j'ai l'habitude, quand je reçois une personnalité politique pour la première fois, c'est d'apprendre à le découvrir. Et vous m'avez demandé, vous m'avez posé la question, mais quelles sont les questions en gros, quel est le fil conducteur de votre émission? Et je vous ai dit, j'ai une tradition, c'est de découvrir la personnalité à travers la raison de son engagement politique et votre parcours politique. Je pense que le fait de connaître la raison de votre engagement et votre parcours politique aide à comprendre après, mais justement, vos prises de position, vos choix, etc.
Eh bien, quelle est
la raison de votre engagement politique?
C'est un vaste sujet, parce que je pense que les raisons sont multiples. D'abord, j'ai certainement pas une tradition familiale. J'ai eu un arrière-grand-père qui était ministre des Affaires étrangères, qui avait commencé d'ailleurs les négociations pour l'alliance franco-russe, et qui était un ami personnel du tsar Alexandre III. Et c'est vrai que il a fini à l'Action française, alors qu'il était ministre sous la Troisième République, plutôt de centre-gauche. Son frère, lui, est mort.
Il était ministre de quoi alors?
Des affaires étrangères. Des affaires étrangères. Oui, Émile Florins. Et son frère Gustave, qui a lui bien davantage de rues dans des municipalités anciennement communistes, et qui est mort à 33 ans, était un révolutionnaire que Victor Hugo appelait le Chevalier Rouge, titre d'un livre qui lui a été consacré il y a pas très longtemps d'ailleurs, et qui a fait la révolution un peu partout, en Pologne, en Crète, et puis qui a été député de Belleville et général de la Commune, et qui a lancé une des dernières offensives de la Commune contre les Versaillais. Ses troupes se sont débandées, il a été rattrapé par les Versaillais, il a été tué d'un coup de sabre par un capitaine de gendarmerie, ce qui il était un ami de Marx, de Blanqui, etc. Donc il n'y a jamais eu de modéré dans ma famille, de certaine façon, à part mes parents peut-être, mais c'est une disgrâce qui nous a été épargnée.
Alors vous considérez comme un modéré ou pas alors, Bruno Gollnisch?
Pas forcément, non. En tout cas, la modération n'est pas mon critère. Je me considère comme un homme pacifique. Comme tout le monde, je n'aime pas me faire marcher sur les pieds, je le fais savoir. Mais je ne crois pas être un extrémiste en réalité. Je ne suis pas non plus un modéré. J'ai toujours eu en horreur le culte d'une certaine modération, qui d'ailleurs ne se défend ni intellectuellement ni moralement. Jésus-Christ disait qu'il vomissait les tièdes.
Absolument.
Donc, voilà.
Malheur aux tièdes. Oui.
Alors, j'ai été élevé dans une famille...
Plutôt communiste.
Mes parents étaient de droite, mais ne faisaient pas de politique. Mon père, qui était expert comptable, avait une grande méfiance pour le monde politique, je crois assez justifié. Il pestait contre la modification constante des règlements, des lois fiscales, contre le caractère excessif des ponctions que l'État opérait sur le patrimoine des entreprises et des particuliers. Et en réalité, je voulais devenir diplomate au départ, parce que sans doute les vocations de ce trisaïeul m'avaient poussé à cela. Et puis j'aimais les relations internationales. Alors pour devenir diplomate, il y avait deux possibilités en France. Il y a, pour les pays de langue et de culture occidentale, il y a le concours de l'ENA, à condition qu'on le réussisse et surtout qu'à la sortie on soit quand même relativement bien placé. Et puis il y avait un concours qui m'attirait beaucoup, il y a plusieurs niveaux, mais il y a un grand concours qui donne aussi la parité avec l'ENA, le concours de recrutement des diplomates, qui est le concours d'Orient, pour lequel l'Orient, ça commençait à l'époque sur les rives de l'Oder. Alors il y avait plusieurs sections. Et j'ai donc fait du droit et j'ai fait les langues orientales dans l'idée de préparer ce concours. Mais ma première année de droit, ça s'est trouvé, comme mes parents habitaient l'ouest de Paris, eh bien d'office, les étudiants qui étaient domiciliés dans l'ouest de Paris étaient affectés à cette annexe qui sortait de la boue, qui était Nanterre. Et ma première année de faculté, ça a été l'année 67-68.
À Nanterre.
Alors, je n'avais pas du tout l'intention de faire de la politique. J'étais quand même un garçon assez sérieux, à ma façon. Et on m'avait dit, mes parents, on a commencé par mes parents, et je pense qu'ils avaient raison, si tu t'intéresses à la politique, ben fais tes études d'abord, et puis qu'une fois que tu auras un statut, un métier, ben tu pourras éventuellement t'engager. Je pense que c'était très très juste, mais j'ai été rattrapé par les événements, évidemment, parce que j'ai vu le saccage des universités construites avec l'argent des ouvriers, l'argent des bourgeois aussi d'ailleurs, mais enfin... pas par des fils de famille gauchistes, j'ai vu comment une poignée d'individus qui se comportaient de façon détestable, ils étaient sales, violents, hargneux, ils voulaient imposer leur comportement aux autres, ils bafouaient les professeurs éminents que nous avions, enfin. Il salopait les locaux et je dois dire que ça m'a définitivement vacciné contre le gauchisme que je n'étais pas, je dois dire, tenté de rejoindre. J'ajoute quand même une chose aussi, c'est que j'avais un grand-oncle, un frère de ma grand-mère que j'ai très bien connu, qui s'appelait Paul-Émile Viard, qui était un juriste, qui était professeur de droit romain et d'histoire du droit, et qui a été doyen de la faculté de droit d'Alger et député d'Alger. Qui avait été très gaulliste pendant la guerre et même grand résistant du réseau combat, etc. Et alors évidemment beaucoup moins après les événements d'Algérie. Et pour l'enfant que j'étais, moi j'étais trop jeune pour avoir fait la guerre d'Algérie. J'avais 12 ans en 62. Je suis de la moitié du siècle. C'est assez facile, de 1950. Mais quand même, mes premiers souvenirs politiques sont le drame algérien, le putsch, l'indépendance, le FLN, etc. Et je dois dire que j'ai partagé la réprobation de mes parents et de mes grands-parents devant le fait qu'on avait abandonné de façon aussi effroyable, après leur avoir fait miroiter l'inverse, évidemment, nos compatriotes d'Algérie, qu'ils fussent chrétiens, juifs, musulmans, et en particulier l'abominable massacre des Harkis, qui restera évidemment une tache sur la France. Et pour l'enfant que j'étais, qui aimait bien, avec mon grand-père, ancien combattant de la guerre 14, et grand patriote, mon grand-père maternel, j'aimais bien aller voir le défilé du 11 novembre ou du 14 juillet. Je fais partie aussi de la dernière génération qui avait vu la plus grande France dans ses livres d'école, dans les livres de ma classe de 10e. On dirait aujourd'hui CE1 ou quelque chose comme ça. Oui. Il y avait encore toutes ces taches roses sur les 5 continents. Et puis, on voyait les targhis, je crois que c'est le pluriel de Touareg, sur leurs chameaux, on voyait les buffles en Indochine, on voyait Madagascar, on voyait les îles du Pacifique, etc. Et évidemment, ça faisait rêver l'enfant que j'étais, et le fait que nous ayons quand même abandonné tout cela dans des conditions assez affreuses, et bien souvent, il faut le dire, contre la volonté des populations, m'avait assez profondément choqué.
Alors donc, contrairement à d'autres personnalités responsables au sein du parti où vous, dans lequel vous êtes, on ne peut pas dire a priori que vous soyez très gaulliste.
Non, et je ne le suis pas devenu. Ceci étant,
Il y a d'autres responsables, il y a un responsable en particulier, vous devinez auquel je pense.
Oui, Florian Philippot, mais je vais vous dire, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Quand j'avais beaucoup d'admiration pour Jean-Marie Le Pen, et j'ai fait partie, quand j'étais étudiant au Japon à l'époque, en doctorat à la faculté de droit de Kyoto, avec une bourse du ministère des Affaires étrangères français, en 1974, quand le président Pompidou est mort, ce qui a donné lieu à l'élection de Giscard d'Estaing. Et déjà, moi, j'étais pour voter Jean-Marie Le Pen.
Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez connu ce personnage qui était un illustre inconnu, si ce n'est pour les quelques militaires?
Alors, écoutez, je l'ai connu... la première fois que j'ai entendu parler de lui, je devais avoir 11 ans. Alors, ma mère, dont la famille à l'origine était plutôt radicale, et assez modeste origine, mais très patriote, mon grand-père maternel, qui était un héros de la Deuxième Guerre mondiale, de très grand blessé de guerre, était resté jusqu'à la fin de sa vie fidèle à la mémoire du maréchal Pétain. Et en revanche, dans ma famille paternelle, côté plutôt Action française, on ne lui était pas favorable du tout. Alors ça donnait lieu quelquefois à quelques scènes de ménage, voilà. Et encore que mon père et ma mère se réconciliaient sur l'idée que Daladier et Paul Reynaud, qui avaient fui à Bordeaux, etc., avaient eu quand même assez peu de d'honneur de revenir comme témoin à charge après au procès du maréchal. Et alors ma mère me disait il y a qu'un seul député qui a eu le courage de le leur dire, parce que ils étaient revenus à l'Assemblée, ils siégeaient sous la 4e République, encore en 56-58. Il y a qu'un seul député qui a eu le courage de le leur dire, c'est un certain Jean-Marie Le Pen. J'ai conservé ça présent à l'esprit, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Le Pen. Ensuite, après, il faut bien dire que il y avait très peu de véritables anticommunistes. Il faut rappeler quand même que De Gaulle a donné un certain nombre de coups de canif dans l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, je ne suis pas pour le fait de rester dans l'OTAN, mais à l'époque, quand 6000 chars campaient à une nuit de route de nos frontières et de Strasbourg, c'était évidemment un petit peu plus problématique. Et Jean-Marie Le Pen était de ceux-là, et Jean-Marie Le Pen aussi avait été l'animateur de la campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt en 1965, donc c'était un leader Algérie française, et j'avais de la sympathie pour Jean-Marie Le Pen, je votais pour Jean-Marie Le Pen. J'ai pas pu voter pour lui en 81, parce que Giscard d'Estaing ayant changé les règles de présentation, il n'a pas pu se présenter.
Passer de 100 à 500 signatures.
Voilà, exactement. Mais j'avais à Nanterre un camarade qui était le secrétaire général du Front National, alors tout à fait embryonnaire, s'appelait Alain Renaud.
Rappelons que à l'origine, il y avait le Front, ce qui existait, c'était le Front National Combattant.
Oui, il y a eu le Front National des Combattants, Front National pour l'Unité, l'intitulé exact de l'association après diverses dissolutions gouvernementales, c'était Front National pour l'Unité Française aussi, oui. Et qui m'a, j'avais été un jour entendre, poussé par ses amis de Nanterre, car il faut bien savoir qu'en 1968, il y a toute une génération de droite. Ce que les commentateurs cachent généralement, il y a eu tout ce qui a donné lieu au Club de l'Horloge, mais aussi, par exemple à Nanterre, moi j'ai connu Marie-France Charles, devenue l'épouse de Jean-Pierre Stirbois, le secrétaire général du Front National, qui fut un ami très proche avant sa mort accidentelle. J'ai connu donc Alain Renaud, qui était secrétaire général du Front National, et beaucoup d'autres. Michel Chamard, qui a été au Figaro, puis responsable de la communication de Philippe de Villiers.
Que j'ai reçu ici.
Oui, très bien. Et beaucoup d'autres encore. Et j'avais dans ce déferlement de gauchisme, etc., je m'étais rendu compte que en réalité c'était les idées qui menaient le monde et que ce qui faisait la force de tous ces courants marxistes ou crypto-marxistes, c'était qu'ils avaient une doctrine, même si j'étais très loin d'avoir tous lu évidemment les 6 ou 8 tomes du Capital et n'avaient lu pour la plupart que les 50 pages du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, mais croyaient avec ça pouvoir rendre compte de l'histoire du monde et éventuellement le contester, le transformer, et j'étais par conséquent pénétré de l'idée que les véritables combats étaient intellectuels. Et j'en voulais quand même un peu au gouvernement de l'époque, et là on rejoint le général de Gaulle, d'avoir par une espèce de pacte occulte, non écrit évidemment, les pouvoirs conservateurs de l'époque avaient abandonné en réalité à la gauche tout ce qui était du domaine de l'intelligence, de la pensée, tout le domaine de la culture, tout le domaine médiatique, tout le domaine de l'éducation, tout le domaine de la recherche, etc. Et évidemment, le poisson pourri par la tête, à partir du moment où les intelligences étaient à gauche, où il fallait être à gauche, où la gauche était l'arbitre, en quelque sorte, des élégances morales, distribuait les bons et les mauvais points.
Pourquoi vous parlez ça au passé ?
Je parle de ça au passé parce que elle a toujours tendance à le faire avec une arrogance évidemment incroyable, mais ça prend quand même un peu moins dans la population.
Oui, en ce moment, ça a l'air.
Elle a quand même un peu du plomb dans l'aile et
nous avons
un certain nombre d'échecs politiques, d'affaires Cahuzac et d'autres. Bon, et ont contribué quand même à son discrédit. Alors,
oui, mais alors de là à voter pour à être sensible à, entre cela et s'engager au niveau politique, il y a quand même un pas à franchir. Alors que ça n'était, là, entre la diplomatie quand même et la politique, est quand même radicalement différent.
C'est très juste. Je me suis engagé.
Surtout le monde des idées également, parce que vous vouliez être dans le monde des idées aussi.
Oui. Je me suis d'abord engagé, dans le monde étudiant. J'étais en quelque sorte un peu en droit, un peu l'anti-Cohn-Bendit, de la même façon qu'en lettres, mon ami Didier Gallo, aujourd'hui maire des Sables d'Olonne, s'efforçait lui aussi de résister comme on pouvait. J'ai aussi, par un certain nombre d'amis, connu cette école de pensée catholique d'inspiration, pourrait-on dire philosophiquement contre-révolutionnaire, qui donnait une qu'on appelait la cité catholique, ou plus exactement, souvent on la désignait du terme de son local, la rue des Renaudes, ça existe d'ailleurs toujours, qui insistait à juste titre sur la formation doctrinale et sur l'idée que c'était la formation doctrinale qui était la principale force des mouvements révolutionnaires. Et je crois que c'était très vrai. Alors je me suis engagé dans le syndicalisme étudiant, la seule formation qui n'était pas de gauche, c'est-à-dire la Fédération nationale des étudiants de France, qui n'était pas une formation d'extrême droite, qui était d'ailleurs qui se voulait apolitique. Mais comme les étudiants politisés à gauche étaient à l'UNEF, à la FNEF, il y avait ceux qui récusaient la politisation des universités. Et puis vous me disiez à l'instant, la diplomatie et la politique, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai que quand on est diplomate, j'ai fini par le comprendre, c'est une profession qui a quand même perdu beaucoup d'intérêt depuis l'invention du téléphone.
Effectivement.
C'est joli. Très joli.
Je m'en excuse auprès des diplomates ou des aspirants diplomates qui m'écoutent.
Ils ont moins de liberté.
J'ai réalisé quand j'ai eu le bonheur de terminer mes études de droit dans une grande université japonaise à Kyoto, j'ai vu les milieux diplomatiques, j'ai réalisé que ceux qui avaient fait l'effort d'apprendre la langue du pays, qui est quand même une langue extraordinairement difficile, et même d'apprendre d'autres langues de la zone, de faire du droit, de faire Sciences Po, de passer des concours très difficiles, finalement n'arrivaient pas toujours à occuper les premiers postes, et notamment au grade d'ambassadeur. Et il se trouve qu'à cette époque, mon directeur de thèse, qui certainement partageait pas mes opinions politiques, mais ce n'était pas un gauchiste. En tout cas, c'était un grand honnête homme qui aujourd'hui d'ailleurs habite pas très loin d'ici, Jacques Robert, qui était président de l'Université Paris 2 et membre du Conseil constitutionnel, que j'avais choisi comme directeur de thèse parce que il avait vécu au Japon, quoique ne parlant pas la langue, et il avait écrit un livre sur les institutions japonaises. Et mon directeur de thèse est passé au Japon précisément à un moment où je m'y trouvais. Il a trouvé que ce que je faisais était intéressant et il m'a mis le pied à l'étrier dans l'université française. C'est comme ça que j'ai commencé une carrière académique à 25 ans plutôt que diplomatique. Et je suis devenu lecteur à l'Institut de droit comparé de la faculté de droit de Paris. Et je pense faire une carrière académique dans le monde des idées où il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, à faire, à écrire,
à partager,
et notamment à propos de cette expérience japonaise, parce que c'est un mélange tradition-modernité, et c'est quand même très intéressant de voir comment le fait de ne pas avoir complètement perdu ses racines aide ce pays à affronter les défis de la modernité. Pas toujours de façon parfaite, mais tout de même. Eh bien,
un de vos dirigeants a dit « il faut savoir assumer son passé pour construire l'avenir ».
Je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il n'y a de modernité viable qu'enracinée dans la tradition. Bien évidemment, tout à fait. Et y compris les traditions culinaires dont on vient de parler tout à l'heure. Mais je pense que une partie de notre civilisation se dégrade justement par l'uniformisation de ce qu'on appelle la malbouffe. Je ne voudrais pas être trop long sur ma modeste personne, sur mon parcours. Je ne sais pas si ça intéresse vos auditeurs, mais il se trouve aussi que j'avais fait un séjour à un service militaire un peu prolongé comme officier de marine, de réserve, mais ce fut une expérience absolument passionnante. Et après avoir été nommé maître de conférence des facultés de droit, finalement j'ai décroché une chaire au titre des facultés de lettres. Ce qui est un parcours assez curieux en France, et qui était donc une chaire de japonais. J'ai créé la chaire de japonais à l'université de Lyon, de langue et civilisation du Japon.
Vous avez créé le
département, oui, parce que Lyon avait, c'est une très grande ville évidemment, et avait depuis très longtemps, depuis avant-guerre, dans des circonstances d'ailleurs rocambolesques, qui je vous raconterai peut-être un autre jour, obtenu une chaire de chinois. Une chaire de chinois, vous savez que la Chine, il y avait eu des nationalistes chinois qui avaient attaqué le quartier des légations en 1900, ce qu'on a appelé la guerre des boxeurs.
Oui.
La Chine avait été...
Que l'on célébrera cette année. Dans les célébrations officielles, c'est dans notre dernier invité.
Ah bon?
Dans son guide, il y a
la guerre des boxeurs.
Absolument.
Qui a donné lieu d'ailleurs à un film,
tout à fait,
célèbre s'il y avait Grégory Peck ou Ava Gardner, enfin,
oui,
je ne sais plus exactement.
Il y a eu des grands saints d'ailleurs.
100 jours de Pékin, je crois.
Il y a eu des grands saints à cette époque.
Ah oui, bien sûr, oui, des martyrs, oui, bien sûr. Et la Chine avait été condamnée à payer une indemnité, sauf qu'entre les deux guerres, la Chine était divisée, ruinée, et rechignait à continuer à payer cette indemnité. Le recteur de l'époque, ou le doyen plus exactement de l'époque, mon prédécesseur, Maurice Courant, avait obtenu la permission du gouvernement français d'aller plaider sa cause auprès du gouvernement chinois. Il leur avait dit, écoutez, continuez de payer, et nous allons affecter l'argent à la formation d'étudiants chinois à Lyon. Il y a eu un institut franco-chinois à Lyon qui a eu une très grande carrière, parce que on prétend que même Deng Xiaoping y a été étudiant, Chou Enlai a essayé d'y entrer, etc. Et alors, il y avait donc une chaire de chinois, mais il n'y avait pas de chaire de japonais, et donc j'ai créé cette chaire de japonais. Alors je suis arrivé...
Moins de facilité financière sans doute que pour la Chine.
Là, écoutez, la République est généreuse. Elle a créé le poste de professeur, de maître de conférence, de lecteur, sans problème. Donc voilà, nous avons vu croître le nombre d'étudiants.
Rapidement. Parce que maintenant, il y a une vraie sensibilisation de la France à l'égard du Japon. Oui. Il y a un échange culturel qui est extrêmement important.
Absolument.
Mais je suppose qu'au départ, il devait y avoir moins de, évidemment.
Moins, bah surtout moins quand j'étais,
entre nos deux pays.
Le boom a commencé quand moi, j'étais.
Vous êtes arrivé au bon moment.
J'ai commencé mes études.
Ouais. Ah oui, quand études, vous avez commencé vos études.
Oui, à l'époque des langues, à l'école des langues orientales à Paris. Parce que là, c'est l'époque des Jeux Olympiques. De l'expo de Tokyo, de l'exposition universelle
oui.
d'Osaka,
oui.
et aussi du livre qui a été un best-seller à l'époque de Robert Guillain, correspondant du Monde à Tokyo. C'est un livre qui s'intitulait « Japon troisième grand » et qui montrait que le Japon était sorti des ruines de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il se développait à une vitesse telle qu'il devenait la troisième puissance économique mondiale. Et je pense que ça a contribué, outre les aspects proprement culturels, qui sont effectivement passionnants, ça a contribué évidemment au développement des études japonaises. Alors, je me suis retrouvé à Lyon, j'étais promis à une carrière académique, et comme je suis arrivé dans ce milieu de littéraire avec une formation de juriste, ayant été docteur en droit, avocat, etc., mes collègues littéraires ont supposé que je savais lire un arrêté ministériel. Et donc, ils m'ont demandé d'être assesseur du doyen de l'époque, ce que j'ai accepté, bien évidemment. J'étais là depuis 2 mois à peine. Et puis, 6 mois, je ne sais pas. Et puis, le doyen a résilié ensuite ses fonctions pour des raisons de santé. Et donc, j'ai été désigné dans la foulée doyen, j'ai été élu doyen, directeur, donc d'une faculté où l'on enseignait 27 langues étrangères à près de plus de 2000 étudiants. Et je me suis trouvé le plus jeune doyen de faculté de France et de Navarre, pas à cause de mes mérites, mais à cause de cette circonstance.
Vous étiez le doyen le plus jeune.
Oui.
C'est assez amusant.
Oui, c'est assez amusant.
Oui.
J'ai toujours beaucoup décané.
Alors, je me permets de vous arrêter. On voit qu'on vous confie un certain nombre de postes importants, influents. Est-ce que vous affichez vos idées politiques à cette époque ou pas encore?
Alors, je ne les cache pas, mais je ne les affiche pas non plus. Parce que j'étais...
Vous n'êtes pas encore estampillé.
On sait quand même que je ne suis pas de gauche. Mais d'un autre côté, je me comporte de façon extrêmement équitable avec tout le monde. Quelles que soient les opinions politiques que je ne veux pas connaître d'ailleurs, et je suis de ceux qui se sont attachés à la neutralité du service public.
Mais vous ne militez pas.
Alors
vous
à ce moment-là, non. J'écris dans quelques revues des choses comme ça, mais je ne suis pas encarté dans
non.
un parti.
D'accord.
Et en fin 82, début 83, la responsable locale du Front National, qui était une organisation tout à fait embryonnaire, prend contact avec moi. Et me dit, écoutez, monsieur, voilà, je connais votre parcours par Marie-France Tirebois, mon amie de faculté,
oui.
Marie-France Charles devenue Marie-France Tirebois, par Roger Olindre, qui était un homme que j'admirais beaucoup, ancien combattant, combattant aussi de l'Algérie française, militant politique, grand reporter à Paris Match, et dont j'avais été l'interprète bénévole au Japon quand il était venu préparer un livre sur l'Extrême-Orient. Et me dit cette dame, aujourd'hui décédée, Madame Burgaz, elle me dit, mais nos amis me disent que vous partagez nos convictions, etc. Je dis oui, c'est tout à fait exact. Mais alors, Jean-Marie Le Pen vient à Lyon, nous tenons un congrès, une réunion à Lyon importante. Écoutez, il faudrait vraiment, nous n'avons pas de personnalité locale pour l'accueillir, il faudrait que vous acceptiez d'être à la tribune. Alors, j'étais un peu gêné.
Était-il diabolisé comme maintenant ou pas? Avait-il fait des excès?
Déjà on s'y essayait, bien sûr, si vous voyez les premières émissions.
Était-il plus diplomate dans ses propos?
Non, je crois qu'il a toujours eu son franc-parler. Ouais. Oui, oui, mais ça ne lui avait pas encore assez porté tort. Au contraire, d'ailleurs, ça avait assuré dans ses fameuses émissions avec Henri de Virieux.
Oui.
Ça avait assuré plutôt
une certaine notoriété.
Ouais. Et alors, je dis, écoutez, madame, c'est un homme que j'ai déjà entendu il y a presque 10 ans que j'ai rencontré brièvement, dont je considère que les opinions sont tout à fait intéressantes parce que lui, il parle des questions essentielles. Je l'avais entendu 10 ans auparavant parler des évolutions démographiques, de la montée de l'islam, l'immigration massive, etc. C'était des questions quand les autres personnalité politique ne parlait que d'augmenter le SMIC ou de quelques points pour obtenir des faveurs de l'électorat populaire. Bon. Et j'étais quand même réticent. J'ai dit, écoutez, si je me contenterai, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je me contenterai d'être au fond de la salle et de l'écouter. Je ne tiens pas à me mettre en avant. Je n'ai pas d'engagement politique explicite et il est évident que dans ma situation, ça ne peut que me nuire, etc. Elle a beaucoup insisté. J'ai pris quelques conseils et alors on m'a donné des conseils de modération. Et un certain nombre de collègues qui, au fond, avaient des idées assez proches des miennes, me disaient « Oui, oui, mais Le Pen, pourquoi pas, très bien, mais écoute, non, mais toi, non, tu penses à ta carrière, pense à ton avenir, etc. » Et je dois te dire que ça a eu l'effet inverse, ces conseils de prudence.
Ça vous a agacé?
Oui, parce que je me suis dit, ils ont sans doute raison, mais si tout le monde fait comme ça, il y aura jamais de vent dans les voiles, quoi. Alors j'ai accepté ce qui a, à l'époque, ce qui a fait un peu le buzz, y compris au plan national. Je mettrai un euro dans le petit cochon parce que je pense
un peu
que
de bruit.
C'est un mot anglo-saxon. Disons que ça a eu un certain retentissement et même un retentissement certain, surtout à Lyon. Lyon Figaro a fait sa une sur le fait que voilà, le doyen Gollnisch était à la tribune.
Ça vous a pas coûté cher tout de suite?
Pas tout de suite.
Après, non, oui.
Après, oui, beaucoup plus tard. Oui, oui. J'ai compris que j'avais accumulé beaucoup d'hostilité, mais ils ne se sont pas manifestés immédiatement. Et alors, à partir de ce moment-là, bon, après tout, j'étais en quelque sorte grillé, si vous voulez.
Ah oui, ça oui. Bon.
Et quand on m'a demandé d'assumer la responsabilité du département du Rhône, j'ai accepté. À l'époque, il y avait 12 adhérents, je crois. On les a portés à 2000. Et bien sûr, vous parliez du gaullisme, mais il y a des gens qui venaient de tous les horizons et qui étaient les bienvenus. Il y en a qui venaient de la gauche, il y en a beaucoup qui venaient du gaullisme,
mais pour lesquels
l'image du général de Gaulle était une image de patriotisme.
C'est par rapport à vous que j'ai dit ça uniquement.
Comment?
C'est par rapport à vous uniquement que j'ai dit ça.
Oui,
et pour faire un petit pied de nez. Voilà.
Oui, mais il faut mais pas faire de pied de nez parce que c'est pas gentil.
À d'autres. Pas à vous, à d'autres.
Sans faire de pied de nez, peut-être pour faire un bond dans le temps, vous avez indiqué que Jean-Marie Le Pen en 83 posait les vraies questions et s'intéressait au sujet.
Oui, même en 75, j'ai entendu la première fois en 75.
Trouvez-vous qu'aujourd'hui le Front National s'intéresse vraiment aux sujets les plus importants? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend, par exemple, je pense que vous êtes déjà exprimé sur le sujet, mais ça a interpellé, j'imagine, un certain nombre d'auditeurs. Nous en avons parlé lors de la précédente émission sur la question de l'avortement. Quand la présidente du Front National indique que l'avortement ne sont que chicaya, c'est un sujet sans importance, voire un sujet lunaire, et que ce débat a été tranché.
De second ordre.
Et que c'est même un sujet lunaire et de second ordre et sans importance. Quel est votre sentiment là, à ce sujet?
Moi, je pense qu'elle parlait des divergences d'appréciation sur ce qu'il conviendrait de faire. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une grande politique d'accueil de la vie. Il ne s'agit pas, en ce qui me concerne, et je crois la plupart des gens qui se reconnaissent dans la sensibilité dont que j'incarne, mais pas tout seul. Hein. Il ne s'agit pas de revenir à l'état de droit antérieur dans lequel des femmes se retrouvaient seules devant des tribunaux judiciaires, sans d'ailleurs que généralement que le mari ou le compagnon, etc., soit impliqué. Il s'agit pas de ça, mais il s'agit en tout cas de faire quelque chose, encore une fois pour l'accueil de la vie, parce que pour des raisons morales d'abord et pour des raisons politiques ensuite, parce que notre situation démographique, quoi que l'on en dise, est catastrophique. Les chiffres de notre démographie sont masqués par l'effet de notre code de la nationalité. Le code de la nationalité considère comme français les enfants qui naissent de parents étrangers et qui sont naturellement reconnus également par l'état d'origine de leurs parents, comme leurs propres nationaux. Et par conséquent, sur ce phénomène de la double nationalité sur lequel n'existe aucune statistique, ce qui est quand même extraordinaire, cela masque en fait la disparition, progressive de la population française, telle que
du stock
de population française. Et je crois qu'il faut faire quelque chose, parce que si un peuple laisse à d'autres que lui-même le soin de faire des enfants à sa place, eh bien, il disparaîtra de l'histoire.
C'est donc pour vous un sujet central.
C'est pour moi un sujet important, mais le problème n'étant pas le problème essentiel n'étant pas la pénalisation de l'avortement. C'est pas de cela qu'il s'agit.
Portez-vous des valeurs catholiques et des convictions chrétiennes?
Alors j'essaie d'être catholique, ce qui est très difficile. Je m'est arrivé d'en parler avec Monseigneur de Courtrai, qui au début avait allégué. C'était un cardinal archevêque de Lyon, je le rappelle, qui avait des propos très sévères pour le Front National, et puis qui a beaucoup évolué par la suite. Je ne sais pas si c'est à mon contact, mais enfin, bon, j'ai eu avec lui des discussions très intéressantes. Alors, il me disait, je lui faisais le reproche de nous avoir critiqués, il me dit, mais il n'y a pas que vous que j'ai critiqué, je critique aussi l'intolérance des autres partis politiques, des syndicats, etc. Ben, je lui disais, mais éminence, cette deuxième partie de votre discours a été beaucoup moins audible que la première. Mais je dis, vous savez, en démocratie, cette intolérance fait en quelque sorte partie du système, lui ai-je dit. Parce que j'ai dit, si on se présente aux élections plein des vertus chrétiennes, en disant, vous savez, je me présente contre Durand, mais il faut reconnaître que M. Durand est quand même assez sensiblement plus compétent que moi. Je suis honnête, mais c'est surtout parce que j'ai pas eu l'occasion encore de taper dans la caisse.
Vous caricaturez un peu les choses.
Je ne sais pas ce qui se produirait si j'étais tenté. Bon, ben quelqu'un qui se présenterait aux élections plein d'humilité chrétienne aurait très peu de chances d'être élu.
Il y a quand même eu des sympas qui ont fait de la politique. Bon, revenons quand même sur moi. Ce qui m'intéresse, c'est la fin de votre parcours pour arriver jusqu'ici.
Ils ont fait de la politique. Bien sûr, il y a des saints qui ont fait de la politique. Souvent, d'ailleurs, comme par exemple les saints qu'on on évoque en politique, comme Saint Louis, etc. Ben, ils ont reçu le pouvoir sans l'avoir cherché. Le grand problème, c'est que ce qui est un problème de notre démocratie, qui est un les autres régimes sont sans doute pires, mais c'est que en démocratie, les responsabilités publiques ne sont confiées qu'à des personnes qui les ont sollicitées. Ce qui suppose, évidemment, que on vante un peu ses mérites. D'ailleurs, la raison pour laquelle les samouraïs japonais au XIXe siècle, quand ils ont découvert la démocratie, et ils ont dit, c'était assez curieux, dans ces pays, par exemple, on choisit les rois par une gigantesque vente aux enchères, où chacun se porte adjudicataire, en quelque sorte, c'est celui qui a obtenu le plus de suffrages qui l'emporte. Mais il disait, mais ce système ne s'acclimatera jamais chez nous parce qu'il est contraire à la mentalité du samouraï de vanter lui-même ses mérites comme un battleur de foire.
Alors, moi j'en reviens à votre parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous vous engagez, vous développez de façon fort importante le Front National.
Oui.
Et vous êtes élu rapidement.
Alors, la première élection où Jean-Marie Le Pen me propose une place qui s'est avérée être une place éligible, c'est l'élection européenne, qui est au scrutin proportionnel national à l'époque. J'ai trouvé que il n'était peut-être pas très convenable que, sitôt arrivé, je passe devant des gens qui, dans ce type d'engagement politique au service d'une formation, dans une période de traversée du désert, m'avait précédé. Et donc, je lui ai dit, écoute, à l'époque, on se, vous voyait encore, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi plutôt la dernière place, comme ça, il sera clair que je ne vous ai pas rejoint par intérêt. Mmh. Et donc, cette première élection, qui était l'élection de 84, j'ai été le dernier de liste. Donc, je ne risquais pas d'être élu.
Non.
Alors, en revanche, à la surprise générale, et quoi qu'on en ait dit, pas du tout pour favoriser le Front National, pour sauver les meubles du Parti Socialiste, quand François Mitterrand passe au scrutin proportionnel, bah assez naturellement, à l'époque je suis le leader du Rhône, et je suis élu, encore que aucun sondage ne me donnait élu. Le meilleur score que m'ait donné un sondage 8 jours avant l'élection, c'était 6%. Nous avons fait 13. Nous avons passé 2 députés. Moi-même, je conduisais la liste. Jean-Pierre Revaux, mon ami qui est colistier, a été élu également. Et nous avons fait une entrée fracassante également au Conseil régional Rhône-Alpes. Et à partir de ce moment-là, évidemment, je suis devenu... Jean-Marie Le Pen m'avait déjà demandé comme universitaire de diriger les comités de réflexion et d'expertise du Front National, parce que quoi qu'on en dise, il y a toujours eu chez nous des gens parfaitement compétents et qui se sont livrés à un travail intellectuel et assez considérable dans des domaines très divers, d'élaboration de programmes, d'études d'un certain nombre de sujets. J'en ai quelques milliers de pages... chez moi. Bon. Et donc, je suis devenu membre du bureau du Front, je suis devenu responsable de la région Rhône-Alpes, et par la suite, secrétaire général.
Et alors,
après la mort de Jean-Pierre Sirbois.
Donc, nous nous rappelons tous que vous avez été candidat face à Marine Le Pen.
Oui.
Et donc, vous avez fait un score plus qu'honorable.
Oui.
Compte tenu de, quand même, Jean-Marie Le Pen a fortement soutenu sa fille.
C'est vrai.
Pour avoir dit récemment l'avoir regretté.
Je ne lui demande pas.
Vous ne lui demandez pas. Alors justement, quelles sont vos relations à l'heure actuelle entre ces deux personnes?
Malheureusement, ces relations ne sont pas bonnes et elles sont...
Avec qui?
Entre Jean-Marie et Marine,
oui,
Le Pen.
Vous, je parle de vous au milieu de ces deux personnes.
Moi,
je parle pas des deux personnes.
Ah, bon, pardon. J'avais mal compris la question. Je m'efforce et je crois y parvenir à avoir de bonnes relations avec les deux.
Alors, évidemment. Est-ce que vous êtes dépêché par l'un ou par l'autre?
Je vais vous répondre un petit peu plus complètement.
Oui.
Évidemment, j'ai avec Jean-Marie Le Pen un passé en commun, des épreuves. Nous avons traversé.
Vous avez une histoire
commune.
Une
profonde amitié, une affinité certainement plus importante que celle que j'ai avec Marine. Mais en ce qui concerne Marine, j'ai toujours dit que quand on participe à une compétition, quelles qu'en soient les circonstances sur lesquelles on pourrait beaucoup gloser, quand on en admet les résultats, j'ai donc fait savoir, contrairement à ce qu'aurait souhaité sans doute un certain nombre de mes soutiens, que j'acceptais sans équivoque ni réserve les résultats du congrès de Tours qui ont vu l'élection de Marine Le Pen, à laquelle je reconnais de grandes qualités dans beaucoup de domaines. Et par conséquent, je souhaite, dans un but de servir l'intérêt général et la cause que j'ai toujours défendue, je souhaite mettre mes compétences à son service.
Mais justement, sur la cause que défend aujourd'hui le Front National, avant, on avait plutôt ce triptyque nation, liberté, identité, je parle sous votre contrôle.
Oui.
Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on est sur un triptyque protectionnisme, étatisme, laïcisme. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce nouveau triptyque qui est une sorte de dévoiement de nation, liberté, identité?
Alors, moi j'ai également une autre question qui va un petit peu dans le prolongement de ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que on vous demande pas, justement, puisque vous arrivez à faire la jonction entre les deux, on va dire, en quelque sorte.
J'essaye.
Est-ce que, justement, on vous demande pas de passer des messages à l'un ou à l'autre? Il y a un Il y a un E, donc ça veut dire si c'était le cas, je ne le dirais pas.
Si c'était le cas, je ne le dirais pas.
D'accord. Bon, alors donc ça veut dire oui, implicitement.
Non, je dois respecter certaines confidentialités, mais pas beaucoup, pas très souvent. Je dis
de quoi de respecter la confidentialité.
Non, je respecte toujours la confidentialité.
On n'espère pas.
Mais je
plaisante.
Il arrive qu'on me demande de faire passer un message, mais c'est pas.
Arriverez-vous Pensez-vous que les relations évolueront?
Je le souhaite très vivement. Ça me paraît nécessaire et sur le plan humain et sur le plan politique, affectif, moral, je le souhaite. Je ne méconnais pas les difficultés de l'entreprise. Voilà.
Et les deux ont votre oreille. Les deux personnalités ont votre oreille.
Je crois Jean-Marie Le Pen davantage que Marine, indiscutablement. Mais je suis d'une parfaite loyauté envers Marine. Enfin, en tout cas, je le crois.
Oui. Et pour répondre à la question de Philippe Dété.
Alors, vous voyez un dévoiement, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, je reprends vos termes. Vous m'avez dit nation au départ, nation, liberté, identité, et aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me répéter?
Protectionnisme, étatisme, laïcisme.
Protectionnisme, étatisme, laïcisme. Alors, ce ne sont pas nécessairement des termes contradictoires. Parce que nation, bien sûr...
Ce ne sont pas contradictoires, mais c'est vraiment le point d'entrée qui n'est plus le même. Et même parfois le
mais ça, excusez-moi, peut-être, mais ça relève aussi peut-être un peu du procès d'intention. Il faudrait que vous en parliez avec les intéressés, si vous visez plus particulièrement Marine Le Pen, Florian Philippot, dont je ne suis pas les interprètes ici.
Philippe Dété, sent le diplomate qui répond.
Non, mais par exemple, le protectionnisme, c'est vrai que on a pu croire pendant un temps au bienfait du libre-échange, et notamment au fait que, après tout, un libre-échange entre des pays européens qui avaient à peu près les mêmes niveaux de protection sociale, les mêmes niveaux de développement économique, avait sans doute des inconvénients. Je me bats dire à madame, par exemple, que ben évidemment les cerisiers à Naples, je suppose qu'ils arrivent, ils fructifient plus tôt que dans la région parisienne. Hein,
c'est voilà, vous qui nous parlez de cerisiers alors que vous connaissez ceux du Japon.
Ah là oui, là. Mais eux, ils ne donnent pas de fruits comme
estime. Non, ils sont absolument. Oui.
Alors, ce sont des prunus en réalité.
Ce sont des prunus.
Oui, botaniquement parlant. Oui. Mais en tout cas, il pouvait y avoir des inconvénients, il pouvait y avoir des distorsions de concurrence, mais il y avait un intérêt, un grand marché. Mmh. Mais à partir du moment où cet ensemble a été, de façon absolument folle, inséré dans un libre-échangisme mondial complètement débridé, qui met l'ouvrier français en concurrence avec l'ouvrier chinois, qui met demain l'ingénieur français en concurrence avec l'ingénieur indien, c'est-à-dire des gens qui se contentent de 10 fois moins, qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de liberté syndicale, qui n'ont pas... Il y a une disproportion terrifiante qui vide petit à petit notre potentiel de sa substance. Et par conséquent, je pense que un protectionnisme économique raisonnable est tout à fait nécessaire à la protection des intérêts vitaux de la nation. En ce qui concerne le liberté, vous disiez étatisme. Ah, ça c'est très important. Je trouve que sincèrement, c'est un mauvais procès que l'on fait à Florian Philippot. Ça va vous surprendre. Mm-hmm. Je suis pas d'accord avec Florian Philippot, notamment lorsqu'il me paraît traité de façon beaucoup trop légère, ne pas accorder assez suffisamment d'importance à des questions sociétales. C'est vrai que nous avons cette divergence. En revanche, je ne le crois pas crypto-socialiste ou crypto
marxiste. C'est pour ça que étatisme, c'est-à-dire le fait qu'on est pour un central, qu'il soit vers un centralisme et vers également une réduction de l'État comme c'était précédemment le cas avec Jean-Marie Le Pen, notamment en termes de lourdeur bureaucratique et
bien
de la
fonction
publique.
Alors là où vous auriez raison, et c'est, personnellement je m'efforcerai d'y veiller au cours de cette campagne, c'est si nous abandonnions notre discours pour la restauration des libertés économiques sur le plan interne. Mmh. C'est-à-dire la lutte qui était celle de Jean-Marie Le Pen, très vive, contre les excès de la bureaucratie. qui est paralysant dans notre pays, et du fiscalisme, ce qui est spoliateur. Ça, il faut conserver ça. En revanche, moi, je ne suis pas choqué par la notion d'État stratège,
qui n'est pas incompatible avec les libertés.
Qui n'est pas incompatible avec les libertés, absolument. Et qui est même nécessaire aujourd'hui. Parce que, il y a un certain nombre de monopoles, par exemple, dont j'étais un farouche adversaire. Bon, prenons par exemple EDF. Voilà. Bon, nous avons tous, je disais à droite, critiqué le comité d'entreprise d'EDF qui bénéficiait de 1% du chiffre d'affaires.
Le comité d'entreprise du comité d'entreprise.
Exorbitante, tout cela pour la CGT, le Parti communiste, etc. Bon, mais je dois dire que je ne suis pas du tout persuadé de la valeur des mises en concurrence provoquées par l'Europe. Depuis qu'il y a par exemple un gestionnaire du réseau ERDF et un fournisseur d'énergie EDF. Alors moi je vais vous donner un exemple personnel. C'est vrai qu'on voit midi à sa porte. J'ai retapé une bicoque que j'occupe en région parisienne, maison dans un village, bon, très bien. On a refait toute l'électricité. Malheureusement, le réseau envoyait par suite d'une ce qu'on appelle une rupture du neutre du 400 volts dans les ampoules. Qui claquaient toutes les unes après les autres. Bon, c'est impossible. Bon, alors, on téléphonait à ERDF, responsable du réseau, et il disait, bah, écoutez, allez voir le fournisseur d'énergie. On a téléphoné à EDF, fournisseur d'énergie, il disait, allez, adressez-vous à ERDF, fournisseur du réseau. Moi, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de grandes entreprises nationales, à condition que l'État ait son mot à dire sur la gestion, sur les rétributions des dirigeants, sur un certain nombre de choses, qui sont nécessaires pour la conservation du service public, d'une part, et d'autre part, pour la préservation de nos intérêts, pour éviter que nos industries par pans entiers soient bradées à des intérêts étrangers qui ont intérêt à les démembrer et à les vendre par appartement. Moi, je regrette que, par exemple, l'État ne soit pas intervenu plus fermement dans l'affaire Alstom, pour prendre cet exemple.
Monsieur Galny, je me permets de vous arrêter. Cette présentation était volontaire. D'abord, nous avons un auditeur qui nous dit « C'est toujours un bonheur, cher monsieur Galnisch, de vous entendre. Bonheur, hélas, trop rare, mais nous, c'était notre premier contact. »
Bien indulgent.
« Vous nous montrez ce soir un de vos multiples talents, celui de conteur. » Et c'est vrai que nous avons apprécié. C'est vrai que nous sommes à 2 jours de Noël. Nous n'avons pas voulu rentrer trop dans les données politiques ce soir. Nous avons plus été intéressés par votre parcours et le faire découvrir à nos auditeurs. Je pense que c'est sans doute une des premières émissions où ils ont découvert votre parcours et c'était très volontaire en ce que nous appelons traditionnellement la trêve des confiseurs.
C'est alors, très gentil, merci beaucoup.
Alors, nous avons en ligne une personne que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du pasteur Jean-Pierre Blanchard. Bonsoir, pasteur.
Bonsoir, les amis. Bonsoir, cher Bruno.
Alors, cher pasteur, ce soir, nous avons reçu beaucoup de personnes, donc on va vous laisser, vous allez hurler, mais 2 minutes. Mais en 2 minutes, je sais que vous savez, vous avez des talents magnifiques pour nous faire un concentré de ce dont vous avez besoin pour vos maraudes.
Eh bien, écoutez, nous étions avec Francis, que vous connaissez, Bruno m'a posé la question, mais...
Vous étiez avec Bruno Gollnisch il y a quelques jours.
Voilà, comment fais-tu pour récupérer le linge? Je lui dis, c'est grâce à courtoisie, voilà. Alors, donc, nous avons besoin, bien sûr, de vêtements, plus particulièrement d'hommes, mais aussi de femmes. Nous cherchons des pantalons, des pulls, des t-shirts, des chaussures, des chaussettes, des sous-vêtements, mais aussi des duvets, des couvertures, de la nourriture sèche. Et nous avons aussi besoin de bénévoles pour la fin de la campagne 2017, où je vous reverrai avec votre compagne, voilà. Et puis, je salue tout le monde et je dois dire que cette maraude a été fort intéressante, puisque Emmanuel, que vous connaissez bien, puisque vous avez maraudé avec lui, a été a rencontré son idole, Bruno Gollnisch. Voilà, pour tout cela, m'envoyez...
Je pense qu'il a été un peu déçu, mais...
Alors,
mais le pasteur fait un boulot formidable, il faut l'aider.
Alors, justement, comment est-ce qu'on fait pour vous aider, pasteur?
Alors, moi. Donc pour tout cela, vous pouvez me téléphoner au 06 74 03 18 15, 06 74 03 18 15, ou m'envoyer un courriel. Pour cela, vous allez sur Google, vous mettez en recherche Pasteur Blanchard, puis vous cherchez le blog du Pasteur Blanchard, et là, il y a un lien sur la colonne de gauche, et vous posez votre candidature pour venir à une maraude.
Merci beaucoup, Pasteur. Désolé pour ce, c'était court, mais c'était parfait. Voilà. Merci beaucoup.
Meilleurs vœux à tous.
À bientôt.
Merci, vous aussi.
Merci.
Bonsoir, Pasteur. Merci. Merci, Bruno Gollnisch.
J'aurais beaucoup de raisons de me réjouir cette semaine de la libération de la ville d'Alep, mais pour des raisons que vous découvrirez dans les semaines qui viennent, je vous en parlerai plus longuement une prochaine fois. Aujourd'hui, je vous un sujet majeur,